Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous dans le rétro, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à embarquer pour notre voyage spatio-temporel. Si on ne se connaît pas, moi c'est Déborah Grunewald, enchantée. Chaque semaine, on part en balade avec un invité, on y retrace sa carrière, on se pose des questions que tout le monde se pose sur le boulot, la vie, le bonheur, les échecs, les succès, la tristesse, la joie. On y parle de ses artistes, mais aussi un peu de nous. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste indomptable et audacieuse, sensible et lumineuse. Bon, elle est maniaque aussi et un petit peu obsessionnelle. Mon invité aujourd'hui, Amel Bent, passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Amel Bent.
Vous avez oublié anxiogène. C'est ce qu'on dit parfois. Oui, bonjour.
Alors, c'est votre sœur hein, qui dit que vous êtes maniaque, contrairement à elle qui est bordélique. Et obsessionnelle, c'est vous qui le dites.
C'est vrai.
Pourquoi obsessionnelle ?
C'est le résultat de beaucoup de détermination, en fait.
Oh, c'est bien alors.
Oui, c'est l'obsession, mais la bonne obsession. C'est-à-dire que quand je me donne un objectif, j'y vais, quoi. Ça devient une obsession. Alors parfois, on peut se faire du mal.
Ouais.
Il faut savoir accepter quand on ne va pas pouvoir arriver là où on voudrait arriver et prendre du recul, etc. Bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à être obsédée.
Et anxieuse, encore aujourd'hui ? Le temps, ça va mieux ?
Non, ça ne va pas mieux. C'est pas pire. Mais c'est par période, je pense que ça fait partie de moi, c'est comme ça. Maintenant j'en parle et c'est cool de pouvoir en parler. Pendant longtemps je ne savais pas ce que c'était. Donc je gardais ça pour moi parce que je ne savais pas qu'on pouvait en parler, ouais. Que c'était quelque chose que les autres pouvaient comprendre. Et puis maintenant on en parle et ça c'est hyper cool. Depuis qu'on parle beaucoup de santé mentale, etc. L'anxiété c'est quelque chose dont on parle. Maintenant j'ai compris qu'il y avait aussi des stades plus graves, des stades beaucoup moins graves. Je pense que je fais partie de ceux qui le gèrent bien parce que ce n'est pas de la grosse anxiété.
Ouais.
Mais j'ai des phases anxieuses, ouais. Et puis je deal avec depuis 39 ans maintenant. Enfin peut-être que je n'étais pas un bébé anxieux, je ne m'en souviens pas. Mais on va dire au moins 30 ans.
Amel Bent, vous traînez aussi avec des ch'tarbés. Alors, elle est complètement ch'tarbée, c'est Amel Bent qui le dit. Moi, je ne me permettrai pas.
Elle dit ça, Amel.
Ouais.
Camélia ça fait rire qu'Amel dit
ça. Ah oui, elle est ch'tarbée.
Ouais. Pourquoi?
Parce que je l'aime très fort et que je la trouve aussi complètement ch'tarbée. Je l'admire énormément.
Et pourquoi elle dit que vous êtes ch'tarbée, d'ailleurs?
Je ne sais pas, moi. J'aimerais bien.
Faudra lui demander.
Je vais lui demander, alors.
Je vous le demande.
Mais il y a quand même quelques vidéos de studio avec Camélia
et
Camélia Jordana, ouais, qu'on a balancé avec Vita à l'époque de l'album Soror. Je pense qu'on peut quand même un peu entrevoir la ch'tarbétisation. Évidemment, il y a aucune moquerie auprès des personnes qui souffrent vraiment de folie, etc. C'est un mot, qu'on vulgarise pour dire. Pour moi, c'est les gens qui sortent, qui dessinent en dehors du cadre, quoi. Et Camélia, elle est là-dedans. Elle a un petit grain de folie qui lui fait dire et faire des choses, qui sont pas communes. Et chez moi, de ma bouche,
ça fait du
c'est
bien.
Pas un défaut.
Non.
Moi, pour moi, c'est plutôt les gens qui sont un peu révoltés, un peu militants, et tout à coup, il faut ce petit grain de folie aujourd'hui pour sortir du cadre. Et je pense qu'elle l'a. Et vraiment, de ma bouche, c'est plutôt une qualité. J'aime bien. C'est une de mes ch'tarbées préférées.
Amel Bent, ça y est, nouvelle tournée en 2026, 8e album, Minuit 1, un album dans lequel vous allez beaucoup vous livrer. Est-ce que ça a été difficile ?
En fait, la période où j'écris cet album a été une période difficile. Et je pense que d'écrire, ça a été les plus belles parties de l'année. J'avais besoin d'écrire beaucoup. C'est un album nocturne, hein, donc c'est vraiment des pensées de nuit, quoi. C'est à la fois des moments de solitude, des moments où de la solitude, finalement, on se retrouve avec soi. Donc, on n'est pas si seul que ça.
L'introspection.
De l'introspection. Et puis, la nuit, c'est pas que les pensées sombres et dark, c'est aussi les rêves. C'est la pire et la plus belle année de ma vie, 2024. Donc, l'album reflète vraiment ces nuits-là à penser et à rêver.
On a pu découvrir déjà deux singles, Décharge mentale et Triste. Décharge mentale, allusion à la charge mentale que doivent supporter les fans. Ah, les fans! C'est un lapsus.
Les miens, peut-être.
Je sais pas.
Ouais, non.
Donc, doivent supporter les femmes.
Après, moi, j'ai pas genré la chanson, mais c'est vrai que beaucoup de femmes se sont reconnues.
Ouais.
C'est après, en fait, que j'ai intellectualisé et conscientisé ce que j'avais dit. Et à qui ça pouvait s'adresser. Moi, sur le moment, c'est mes pensées à moi, Amel. C'est un peu comme quand je fais ma philosophie. Je parle de moi, de mes rondeurs, de mes espoirs, de mes rêves. Et puis tout à coup, là, ça se dessine grâce à ce que les gens en font quand ils l'écoutent. Et moi, des charges mentales, je pensais pas du tout que ça allait résonner aussi fort. Vraiment, ça m'a plus bouleversée que de l'écrire et de la chanter, quoi.
Comme vous parliez tout à l'heure de l'anxiété, finalement, en fait, c'est des choses qui vous sont propres et vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y en a plein qui vivent la même chose
et
que vous.
Et c'est ça
quoi.
Qui fait, bizarrement, de manière un petit peu peut-être sadique, de savoir qu'on n'est pas seul dans sa détresse parfois, ou dans ses chagrins, ou dans ses pensées un peu étranges, bah, ça fait du bien. On ne se sent pas anormal.
Amel Bent, vous dites « Aucune femme n'est épargnée par cette charge mentale, il est temps de dire stop ». Si on dit stop, il y a le mari, le compagnon, les enfants qui peuvent aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que ça n'a pas dû être facile, notamment pour votre maman. Qui fait le taf quand on dit stop ?
Déjà, j'ai la chance, j'ai bien choisi un conjoint qui est un merveilleux papa, qui est mon meilleur ami et qui... Mais rien que le vocabulaire de dire qui aide, déjà moi ça il faut que je le déconstruise, parce qu'en fait ils ne m'aident pas, on a fait des enfants à deux, on a choisi notre vie à deux, donc il y en a pas un qui doit aider l'autre. Déjà ça c'est les premiers trucs
c'est
à
changer. C'est vrai, ça j'y avais jamais pensé.
Moi quand il me dit ouais si je peux faire ça pour te soulager, je pars pas en manifestation, mais je lui dis pourquoi pour me soulager ? C'est nous. C'est notre petite entreprise ici. Pourquoi me soulager ? Donc ça veut dire qu'il y a un postulat de départ qui dit que c'est ma tâche et qu'on va me soulager de cette tâche. Quand moi je dis dire stop, c'est-à-dire déjà redéfinir même le vocabulaire, etc. Parce que la charge mentale, c'est pas forcément tout ce qui est lié au rationnel et au réel. C'est aussi tout ce qu'on se dit dans la tête. Déjà rien que se dire que c'est ma tâche, ça c'est à moi de le faire, et que quelqu'un le fasse un peu pour vous soulager, eh ben il y a déjà une petite culpabilité parce que c'était à moi de le faire.
Enfin, on se programme en
voilà.
Fait.
Voilà. Donc il y a un gros travail, c'est pas forcément un travail où on va culpabiliser les uns et les autres ou accuser les uns et les autres, c'est déjà soi-même se faire une petite liste dans la liste de tout ce qui n'est pas au départ obligatoirement fait par soi, et si c'est pas soi, c'est un drame, c'est être moins perfectionniste avec soi-même, c'est être moins dur, c'est redevenir plus apaisé, et c'est un travail qui est différent chez toutes et même tous, parce qu'il y a des hommes aussi, j'ai compris avec les retours qu'il y a aussi des hommes qui ressentent cette charge, peut-être différemment, peut-être à une autre échelle, parce que nous on cumule beaucoup avec le physique, les grossesses, les hormones, enfin je veux dire on traverse quand même, il y a plein de choses dans la vie d'une femme qui rebattent les cartes et on fait avec le boulot, etc. Les enfants, ils réclament les mamans, même si on peut avoir un papa incroyable à la maison, moi j'ai pas vu un de mes enfants, depuis qu'ils sont nés, se faire un bobo et demander papa, c'est maman, moi je suis docteur Queen, femme médecin, c'est comme si j'étais médecin, alors que papa peut très bien le faire, ouais. Mais il y a ce truc, et c'est génial d'avoir ce truc animal et un peu primitif avec nos gamins, qui veulent la maman quand ils ont du chagrin, quand ils se font mal, quand parfois on peut pas le faire, et il y a ce truc voilà dans la tête où on se dit j'aurais dû être là, comment faire, ça doit être moi,
et donc on culpabilise, on n'arrive pas à lâcher prise,
c'est beaucoup la culpabilité, ouais. Et le lâcher prise, donc c'est vraiment dans la tête, c'est comment nous repenser aussi notre façon de vivre au quotidien pour nous soulager nous-mêmes de ce dont on a besoin d'être soulagé et pas attendre qu'on nous soulage.
Amel Bent avec Vita Vianney et Renaud Rebillot, vous avez écrit le titre Triste. Oui. Vous dites il y a des larmes dans ma voix. Ces larmes, elles sont douces, elles sont amères. C'est des larmes dues à quoi ?
Waouh, ça c'est une question un peu bien assez profonde finalement, parce que je pense pas pouvoir répondre de manière vraiment concise et honnête. Parce que j'ai pas l'intention de raconter toute mon histoire, en tout
bien
cas
sûr.
Pas encore. Mais souvent je dis que la tristesse elle vient de loin, mais elle est toujours à l'heure. On traîne des chagrins parfois qui sont aussi vieux que nous.
Et qui peuvent renaître plus tard.
Qui renaissent plus tard, parce qu'il y a des choses dans la vie qui vont faire renaître ces chagrins. Il y a aussi les chagrins qu'on porte en soi, de nos ancêtres. Voilà, il y a des choses
c'est
qu'on porte.
C'est dur de porter les chagrins des autres aussi. Hein.
J'ai jamais vu de psychanalyse ou quoi, mais j'essaye de comprendre. J'aime bien me comprendre physiquement, mentalement, émotionnellement. Je m'introspecte beaucoup. Et quand je fais un peu la liste de mes chagrins, il y en a beaucoup qui ne sont pas les miens. Franchement, il y en a beaucoup qui ne sont pas les miens. Et parfois, il y a aussi beaucoup les non-dits, les choses qu'on n'a pas dites pour pas causer du chagrin, mais ces non-dits pour pas faire mal aux autres nous font mal à nous.
Comment on vit avec ça ?
Eh ben, il faut se soigner. Ouais. Vraiment, le soin au sens émotionnel du terme, c'est-à-dire aller voir les personnes à qui on n'a pas dit les choses.
Pas toujours facile. Hein.
C'est vraiment pas facile.
Ah non.
Toute l'année 2024, j'ai vraiment entrepris ce genre de choses. Je suis allée voir des gens que j'aurais dû aller voir il y a très longtemps.
Ça les a pas blessés, ça les a pas perturbés. Parce
c'est
que
perturbant.
Vous, ça vous soulage. Mais la personne. Ouais. Enfin, ça vous soulage. Enfin, en fait, c'est très compliqué.
Bah, c'est dur parce que c'est des choses qui, en plus, ne sont pas instantanées. Donc, on envoie les résultats après quelques semaines. Quelques mois, c'est un peu comme des deuils. Hein. Se délester d'un chagrin, c'est aussi perdre une partie de soi avec laquelle on a eu l'habitude de dealer, même dans la musique. Moi, mes chagrins, finalement, j'en ai besoin aussi. Ils me font me rapprocher des autres, des autres humains que je rencontre. Moi, je suis très liée aux gens par leurs chagrins. parce que c'est l'empathie. Et moi, dans ma musique, si j'ai pas ce chagrin-là, j'ai du mal à me connecter même à mon public. Moi, je sais, les gens, quand ils viennent me voir, j'arrive même à
vous
me dire...
Vous voulez qu'ils chialent, je
c'est
le sais.
C'est pas que je veux qu'ils chialent, mais je veux qu'ils se soulagent à travers les chansons, qu'ils se sentent moins seuls, comme moi, je fais les chansons pour chercher finalement un écho. Le chagrin, moi, c'est quelque chose qui me porte, vraiment. C'est bizarre de dire ça, mais... Donc, je fais le tri de ce que j'ai besoin de garder et ce dont j'ai plus besoin.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Faites pas cette tête. Vous connaissez Abdelhalim Hafez?
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Vous naissez dans le 18e arrondissement de Paris. Votre maman est coiffeuse à l'hôpital Bichat.
J'aime bien dire ça.
Pourquoi?
Parce que je trouve que cet hôpital, au bord du périph, c'est tellement... Je trouve que ça racontait déjà quelque chose, en fait.
Amel Bent, votre maman est coiffeuse. Votre père, c'est quoi son boulot à votre naissance?
Je crois qu'il est tourneur, fraiseur.
Vous grandissez à la Courneuve, dans la cité des 4000, en région parisienne. Votre mère quitte votre père, elle a 28 ans. Vous en avez 3 à l'époque.
Linge est plié, une valise est sortie. Je crois qu'on va partir. Hier il criait, moi j'étais dans mon lit. Je crois qu'on va partir.
Famille décomposée, c'est un titre qui est sorti en 2007. Plus tard, vous dites de votre père, c'est un individu plein de douleurs, plein de remords, qui n'était pas prêt, je pense, à m'élever. Il faut combien de temps pour avoir cette sagesse-là, de se dire ces choses-là? Si c'est trop compliqué pour en parler, on n'en parle pas.
Non,
attention.
Il m'a fallu. Il me faut encore du temps, en fait.
Ah ouais.
Ouais. En fait, ce qui est étrange, c'est que comme j'étais assez éveillée, même toute petite, puis surtout j'ai une maman qui a beaucoup communiqué parce que j'étais une enfant qui posait beaucoup de questions très petite, donc elle a choisi de me donner des réponses. Et ça, c'est plutôt un beau cadeau.
Même quand vous étiez petite?
Toute petite, ouais. Et elle me donnait des réponses, évidemment, avec les mots de mon âge, mais je me suis toujours fait une raison. Voilà. Mais se faire une raison, ça veut pas dire accepter au fond de soi, c'est pas la même chose.
Je sens qu'il y a peut-être encore une blessure, alors je sais pas si on peut en parler, parce que je voulais aussi faire écouter un extrait de la chanson pour votre papa.
Oui.
Si vous voulez pas, on le fait pas. Je veux pas que mette.
Moi, j'ai dit à mon public, que j'avais pas grandi avec mon papa. J'en ai beaucoup parlé dans mes chansons. J'en parle dans beaucoup de chansons. Donc, et puis c'est quelque chose qui est. Je crois qu'il y a 2 enfants sur 3 qui vivent avec des parents séparés. Donc, je veux dire, je suis pas unie comme mon genre.
Je veux pas vous mettre mal à l'aise ou quoi que
ça
ce
me
soit.
Met pas, alors vraiment, ça me met pas mal à l'aise. Évidemment, ça m'émeut parce que c'est des sujets. Vif, toujours, toute la vie. L'enfant, en soi, il reste toujours blessé par le manque et par l'incompréhension. Donc, on peut comprendre avec son cerveau d'adulte, mais la blessure de l'enfant, elle, moi, je pense que ça ne se referme pas. Non, ça se referme pas.
Cette douleur liée au manque et à l'absence d'un père, donc vous la chantez, ça s'appelle « Chanson pour papa ».
Ton absence me déchire, j'ai trop besoin d'un papa. J'ai honte de moi, j'ai honte d'avoir.
C'est dingue parce que vous chantez que vous avez honte, comme s'il y avait de la culpabilité.
Bah c'est bizarre parce que quand j'écris ce texte, je me rends même pas compte de ce que j'ai écrit. J'écris ce que je pense à l'instant T et là je redécouvre que j'ai dit ça il y a 20 ans. Presque.
Et vous vous dites quoi alors?
C'est cette histoire d'hypersensibilité. Quand on voit l'autre en souffrance, on peut pas se dire qu'on n'est pas un peu à l'origine de cette souffrance. Alors que dans le schéma, moi j'ai rien fait, moi je suis un enfant, donc j'ai pas choisi que les gens se mettent ensemble et se séparent. Mais c'est vrai que j'ai porté ce chagrin-là toute ma vie, alors que j'y suis absolument pour rien. Ce qui est compliqué, en vrai, dans mon schéma à moi, c'est que j'ai une maman vraiment extrêmement intelligente et merveilleuse qui ne m'a jamais, au grand jamais, je sais à quel point ça peut être libérateur, elle ne m'a jamais, entre guillemets, descendu mon père, par exemple. Elle m'en a toujours dit que du bien, alors que je ne le voyais pas et que je ne comprenais pas pourquoi je ne le voyais pas. Elle m'en disait du bien, elle l'excusait beaucoup. Des années plus tard, je lui ai dit, en fait, je t'en ai voulu parce que toute cette période-là, j'aurais préféré le haïr plutôt que d'être en compassion pure, en fait. Parce qu'on a besoin, quand on est petit, d'avoir un coupable et de comprendre pourquoi on vit cette telle ou telle situation. Et là, j'avais pas de coupable. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a emmerdé le plus et ce qui m'a rendu le plus triste. C'est de dire, je peux en vouloir à personne, quoi. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Et ma mère, malgré sa propre douleur, elle m'a épargné Mais je crois qu'en fait, ça a brouillé les pistes de « bah alors pourquoi vous n'êtes plus ensemble alors ?» Voilà.
À Melbourne, après le divorce de vos parents, vous vivez avec votre maman une période difficile, sans logement stable, vous résidez en foyer ou chez des proches. Votre mère et vous, vous avez une relation très particulière. Ça veut dire qu'on vous a volé cette enfance de façon involontaire, évidemment. Vous avez eu l'impression de ne pas avoir eu d'enfance ?
Ouais, c'est l'impression que j'ai. Encore une fois, c'est la faute à pas de chance, c'est comme ça. Mais quand on se retrouve seul avec une maman dans des conditions un peu compliquées, ben, on compte l'une sur l'autre, malgré l'écart d'âge. Ma mère, elle a fait le choix vraiment de toujours tout m'expliquer pour pas que je sente d'injustice ou... elle n'a pas laissé place au non-dit. Franchement, à 4-5 ans, je savais ce que ma mère gagnait. Je savais combien elle avait d'aide, etc. Ça veut dire que quand elle ne pouvait pas m'acheter le cadeau d'anniversaire ou de Noël que je voulais... En fait, j'en ai jamais voulu à ma mère parce qu'en fait, je savais très bien ce qu'elle gagnait et je savais à quel point c'était peu. Et donc, le peu qu'elle m'offrait, pour moi, c'était une reine et elle avait fait un sacrifice exceptionnel. J'ai jamais été une enfant qui se plaignait « Ah, pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi moi j'ai pas ça ?» Au contraire, je n'ai fait que bénir ma mère tous les jours en disant c'est la meilleure des mamans avec le peu de moyens qu'elle a. Elle bouge des montagnes pour sa fille, quoi. Moi, pour moi, ça a été la meilleure façon de faire. Alors certes, oui, derrière, j'ai pas l'impression d'avoir été longtemps insouciante. Mais voilà, ça a fait ce que je suis et c'est comme ça.
À Melbourne, on continue notre voyage dans le temps. Vous êtes encore enfant, vous êtes à la fenêtre de la chambre, vous regardez le ciel, vous priez, vous dites « Aidez-moi mon Dieu, j'ai vraiment envie d'aider ma mère ». Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse vous a entendu ?
Là, fallait me prévenir que c'était...
Ah bon ?
Vous êtes en train de me m'abattre, là.
Non, c'est pas méchant, c'est très émouvant.
C'est très émouvant, c'est beau.
Parce que vous avez une histoire très émouvante aussi.
Là, vous avez recueilli vraiment tous les trucs j'ai peut-être disséminés un peu à droite, à gauche en 20 ans. Vous avez tout rassemblé et du coup, tout à la suite, ça me...
C'est des choses qui nous touchent en fait,
c'est ma vie,
je pense.
Après, je peux pas non plus. Et puis, c'est des choses que j'ai dites, donc je peux pas faire comme si je l'avais pas dit.
Mais ça va, vous êtes bien quand même.
Ouais,
parce que
bien,
je vous dis,
bien.
Je veux pas vous mettre... Non, mais sérieux,
après,
c'est important.
Je vous donne combien à la fin de la séance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pendant, je crois que jusqu'à la nouvelle star, et même les premières années de ma carrière, mon obsession, puisqu'on parlait d'obsession tout au début, c'était de rendre heureuse ma mère.
Ce que vous avez fait dès que vous avez pu, vous croyez en votre bonne étoile, mais est-ce que vous croyez qu'on en a tous une ?
Moi, je suis croyante, donc je ne crois pas à la bonne étoile, en fait. Je crois au destin et,
ouais.
Et j'ai la foi... Donc c'est pour ça que je priais d'ailleurs, c'était pas l'étoile que je priais, c'était Dieu. Et j'ai vraiment prié très fort parce que je voulais qu'on ait une autre vie. C'est pas parce que j'estimais qu'on la méritait plus que d'autres, mais je me disais, par exemple, je regardais ma mère, je me disais « putain, elle a tellement morflé, s'il vous plaît mon Dieu, ça peut pas être que ça sa vie quoi. Et si ça devait passer par moi, bah, c'était merveilleux. »
On change d'époque. Nous sommes au collège, vous êtes une bonne élève, vous aimez vos profs, vos potes, vous passez votre temps à chanter dans les cours. Maria Carré.
Dans les toilettes aussi.
Dans les toilettes
aussi. Ça résonne bien.
Bon, pas en plein cours.
Si.
Non.
Ah si, si, si. À tel point qu'il y a des profs qui me laissaient parfois 10 minutes. Amel, t'as 5 minutes si tu veux chanter ta chanson devant la classe.
Sérieux ?
Ah oui, parce que j'étais intenable, il fallait que je chante. En fait, je me mettais à chanter sans faire exprès en plus. Donc, il fallait absolument trouver des créneaux pour que je puisse m'exprimer parce que sinon...
Et pas timide ?
Jamais.
Ah jamais.
Ouais, c'est venu après.
Sérieux ?
Ah oui.
Quand ?
Bah, quand il y a eu de l'enjeu. Quand c'était juste pour le plaisir.
Ouais. Alors, on peut le dire, le but en chantant Maria Carré, Aznavour aussi ou Whitney Houston, c'était de faire chialer vos potes.
Ah bah c'était la, pour moi, c'était la... En fait, pour moi, ça résumait comment moi je définis le chant, c'est-à-dire absolument comme un miracle. C'est-à-dire que c'est juste de l'air, deux petites membranes qui vibrent entre elles et tout à coup, ça tire une larme à quelqu'un en face. Pour moi, c'est miraculeux. Et déjà, très jeune, je trouvais ça miraculeux. Je ne savais pas si c'était chimique, émotionnel. Enfin, c'est un mélange de tout que je n'arrivais pas à comprendre. Tirer une larme, ben, c'était rendre concret ce miracle. Ça veut dire que j'avais l'équation et puis j'avais le résultat.
Puis un pouvoir, ouais. C'est avoir un pouvoir aussi en quelque
ouais,
sorte.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir. Mais,
ouais.
Mais un pouvoir, ça sous-entend une supériorité par rapport aux autres. Alors que moi, je ne me voyais pas au-dessus. Pour moi, c'était une connexion magique entre deux êtres humains.
À l'époque du collège Amel Bent et jusqu'au lycée, vous avez 18,5 de moyenne. Bon, un jour, vous rentrez avec un 20 sur 20 et malgré ça, vous vous faites engueuler par votre mère. Bah oui, parce qu'il y avait des ratures.
Il y avait du typex, trop de typex. Je crois que ma maman, elle avait besoin aussi d'exister dans ma scolarité. Elle a commencé à travailler, elle avait à peine 15 ans. Il faut imaginer qu'à la moitié du collège, j'avais déjà dépassé son niveau scolaire. Donc en fait, pour pouvoir me dire des trucs, elle checkait en fait la propreté, si j'étais soigneuse et sur mes documents quoi.
Et puis l'échec, c'était pas une option, je pense en plus. Non.
Ouais, elle était pas. En fait, ça c'est la question s'est jamais posée parce que j'ai toujours été bonne élève. Donc en fait, ouais. On n'a jamais parlé. Ça n'a jamais été un sujet l'échec parce que ça c'était pas un sujet pour moi.
C'est bien parce que c'est un souci en moins quand même.
Aujourd'hui, oui,
elle le dit. Quand... Ah ouais, c'est
elle
clair.
Le dit. Elle dit franchement, pour les trois, mon frère et ma sœur aussi, mon frère un tout petit peu moins que ma sœur et moi, mais elle a toujours dit ça, d'avoir eu des enfants qui aimaient l'école, c'est quand même magnifique. Je m'en rends compte, elle dit aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut parler de votre QI ? Sachant que le QI moyen se situe entre 85 et 115, vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Vous êtes donc HPI, haut potentiel intellectuel. Vous l'avez su assez récemment, je crois.
Très tard.
Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été diagnostiqué, ça explique certaines difficultés ou au contraire, certaines prédispositions sur lesquelles vous pouviez vous interroger à l'époque ?
On en parlait à ma mère à l'école petite, on a voulu me faire sauter des classes, elle voulait pas. Pour elle, sauter une classe, c'était faire des vagues en fait. Il fallait être comme tout le monde. Donc elle a pas voulu. En fait, ça a expliqué plein de trucs de moi que je mettais sur le compte du peut-être parfois un peu mauvais caractère ou un peu trop têtu ou les obsessions. Par exemple, si on n'a pas utilisé le bon mot, moi, ça peut aller très très loin. Ça peut me faire pleurer.
Ah ouais.
Dans une discussion, si je comprends pas le mot qu'on dit, si c'est pas le bon mot utilisé, enfin franchement, ça peut partir dans une vraie bataille.
Et comment les gens réagissent dans ces cas-là ?
Bah maintenant ils disent attends, elle est HPI, on va pas s'emmerder avec elle.
Mais
avant,
c'est important.
Qu'est-ce que t'es têtu ? Oh, tu lâches pas le morceau. Et alors, t'avais bien compris ? Et moi, j'ai vraiment pas compris. Ça, c'est par exemple un trait de caractère que j'ai. Mais du coup, maintenant, je sais que c'est lié à ça. C'est vraiment les mots. Leur sens, la charge émotionnelle qui va avec. Et quand c'est mal utilisé, chez moi, c'est une déflagration. Il y a aussi la gestuelle. Enfin, mon corps, il capte des trucs. Par exemple, vous allez me dire oui, si moi, je vais capter que votre corps a dit non.
C'est génial,
et ça
par contre.
Non, c'est pas génial.
Bah pourquoi ?
Parce que parfois, c'est bien aussi d'être juste un peu en surface. Et ça marche très bien aussi dans les relations humaines. On n'est pas tout le temps obligé de gratter partout, plus loin. Ça prend beaucoup d'énergie.
On ne connaît pas finalement ce qu'est le HPI.
Je ne suis pas surdouée, je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un.
Oui, parce qu'on associe souvent le HPI au fait d'être surdouée.
Et c'est pour ça que les gens ne vont pas se faire...
diagnostiquer.
Détecter, parce qu'ils pensent qu'être surdouée, c'est absolument être un génie, réussir sa vie, avoir des bacs plus 18, travailler à la NASA. Enfin, ce n'est pas forcément ça. En fait, ce n'est pas une quantité d'intelligence, c'est une qualité d'intelligence. Ça veut dire que... Et en plus, ce n'est pas sur toutes les intelligences. C'est-à-dire, moi, par exemple, en 3D, je suis nulle à chier. Ouais, je sais pas me repérer en 3D. C'est genre un Rubik's Cube, pour moi, c'est une équation insolvable.
D'accord.
Mais par contre, la logique, des suites logiques, etc. Là, je suis une flèche. Les énigmes, en fait, j'ai un esprit logique imparable. Ça permet de se lire. Et ça permet aux autres aussi d'avoir un peu une notice. Bon, je pourrais vous en parler des heures, de tout ce que ça engendre dans le quotidien, mais c'est pas très intéressant, mais...
Si, justement, c'est très intéressant, c'est bien d'en parler, mais effectivement, il faudrait du temps pour en parler.
Mais c'est un sujet, quoi.
Ouais, complètement.
C'est un sujet.
Comme tous les troubles, de façon générale, il y a de plus en plus de
troubles. Ça crée des troubles, en fait.
Bah oui.
Aussi. Mais parfois, c'est pas des troubles. Ouais. En fait, c'est juste qu'on est un peu différent sur certains trucs.
Vous savez quoi ? Je vous réinviterai.
Ah ouais, on fait un sujet. Mais il faut inviter aussi des HPI, parce qu'il y en a plein des différents.
On peut inviter des HPI, des TDAH, des 10,
par exemple.
Tout
et souvent,
ça
se... En plus, ça se rejoint.
Voilà. Donc, TDAH, trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité, HPI, haut potentiel intellectuel.
HPE.
Et HPE, haut potentiel émotionnel. Enfin, voilà, il y a toute une...
Moi, j'ai aussi un HPE.
À la totale, vous cumulez, quoi.
Et mon HPE...
En général, on cumule.
Est en contradiction avec mon intelligence, par exemple.
On va enchaîner, Amel. Okay,
non, mais c'est vrai, là où mon intelligence me fait défaut, c'est parce que mes émotions...
Dépasse.
Exactement. C'est des graphiques après. Hein.
On y va ?
Voilà, je peux vous ramener mon
compte rendu. Amel Bent aura appuyé sur le bouton téléportation. Nous sommes en 2004, on est dans le train qui vous emmène à Lille pour passer les auditions Nouvelle Star. Bon, on va pas dire que vous avez fraudé dans le train, non ?
Moi, j'ai pas vraiment fraudé. J'ai payé plus tard.
D'accord,
j'ai fait un prêt.
D'accord. Bon, on dit
c'est
par
vrai,
contre...
je vous jure.
C'est vrai.
J'ai eu une amende et j'ai payé mes amendes à
vous
mon
en avez
premier
payé plusieurs.
Chèque.
Ouais.
Oui, oui. Mmh. Mon premier chèque, je me suis acquittée bien. De toutes mes amendes. J'ai jamais payé le métro, donc.
Mais oui, mais parce que votre maman avait pas le, pour le coup, elle avait pas les moyens.
J'avais
payer
un ticket de temps
métro,
en temps, mais c'est vrai que j'avais pas. On pouvait pas avoir la, le pass machin pour,
les
à l'année. Quoi.
Navigo, tout
exactement.
Ça, tout ça. Bon, on dit par contre que vous aviez gardé vos fringues dégueulasses avec lesquelles vous aviez dormi dans la
ça,
rue la veille.
Non. C'est pas. Mais j'avais pas dormi. Est-ce que ça compte?
Non, mais je dis dégueulasse.
J'étais
mais c'est
sur
pas
la
vrai,
même
j'étais...
journée. Non, mais surtout, je suis maniaque. Donc
voilà.
Bon, voilà.
2004. Donc, vous avez 18 ans. Vous faites face au jury de Nouvelle Star. Dove Atia, Manu Katché, André Manoukian et Marianne James.
Je souhaiterais entendre quelque chose en français.
En français?
Français.
La bohème de Charles Aznavour, par exemple. La bohème. La bohème. Ça voulait dire. On est heureux. La bohème.
Casting réussi, ça marque un tournant dans votre vie. Vous avez le sentiment de vous être battue pour en arriver là.
Dire que je me suis battue pour en arriver là, je trouve que c'est pas super cool pour les gens qui se battent vraiment des années, ouais. En fait. Notamment mon idole Aznavour. À 18 ans, il a pas eu la chance que moi j'ai eue. Donc...
Mais vous vous êtes battue quand même. Ça
oui,
c'est
je me suis battue en général,
ouais,
en fait.
Voilà.
Mais je trouve quand même que par rapport à la musique, j'ai eu de la chance quand même. C'est arrivé ouais. vite, c'est arrivé tôt. Enfin, je veux dire, mes prières, elles ont été entendues, quoi.
Ici, dans le rétro.
Ma philosophie figure sur votre premier album sorti en 2004 que vous avez écrit avec Diams. Diams, c'était ça.
Alors, ouais, on déconne, ouais, on est tôt, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non.
La boulette, bon c'était pas que ça, hein. Diams évidemment. Diams, c'est votre partenaire d'écriture à l'époque. La première fois que vous la rencontrez pour l'écriture de cet album, elle vous dit « Parle-moi de toi, c'est quoi tes complexes, c'est quoi tes souffrances ?» Vous répondez quoi à ça?
Ce qu'il y a dans la chanson.
Ouais. Elle vous a scanné en 2 minutes, je crois.
Ah ouais, ouais, ouais. Bah déjà, elle, je pense que HPI, sûr et certain. Ouais. Mais bon, après, j'ai pas l'info.
Vous n'avez pas posé le diagnostic.
Officiel. Mais j'ai rarement croisé dans ma vie quelqu'un d'aussi brillant. Et à tous les niveaux, c'est intelligence de vie, de émotionnel, ça va tellement vite dans sa tête, c'est abusé. Et oui, elle m'a analysé en 10 secondes, quoi. Elle m'a dit, ok, c'est de ça dont t'as envie de parler, tac, tac, tac. Allez, raconte-moi tes complexes, tes espoirs. Redis-moi, t'as grandi où, c'était comment, hein? Ok, ok. Une fulgurance, ma philosophie à l'écriture.
Diams vous a donc scanné très rapidement. Vous avez ensuite bossé avec elle sur votre deuxième album à 20 ans, même si vous l'avez quasiment écrit toute seule.
Oui.
Vous dites, elle m'a fait grandir. Par rapport à quoi, par exemple?
Elle m'a donné confiance, déjà en ma plume. Quand j'ai arrêté d'écrire avec elle, j'ai arrêté d'écrire pratiquement tout court. C'est pour dire à quel point son regard, ses mots me donnaient une forme de légitimité.
Voilà. Elle vous a couché en fait au départ,
ouais,
peut-être.
Exactement.
Ouais.
Moi, je disais ouais, non, mais moi, je sais pas trop écrire. Moi, j'ai jamais trop écrit. Et elle me disait, vas-y, fais voir. Et elle me faisait faire des exercices. Par exemple, il y a une chanson dans le deuxième album qui s'appelle Comme tous les soirs. Elle a écrit le premier et le deuxième couplet et elle m'a dit, voilà, il manque 2 couplets. T'écris les deux, le troisième et le quatrième. À 20 ans, elle a écrit ses parties, elle m'a dit « t'écris les tiennes, meuf, tu te débrouilles, tu sais écrire ».
En fait, vous n'aviez pas confiance.
J'ai attendu cet album-là, minuit une, pour reprendre la plume vraiment et reprendre confiance en mon écriture. Ça a été plutôt compliqué pour moi, ce rapport, ce lien à l'écriture, c'est bizarre. Hein. C'est peut-être mon côté matheux, justement, j'ai fait scientifique.
Vous ne faites pas confiance.
Vous voulez absolument que je dise que je ne me fais pas confiance. Vous ne faites pas confiance. C'est un truc de légitimité. Voilà.
Ouais.
Peut-être comme je n'ai pas fait les études littéraires, etc., que je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. J'ai ce truc un peu vraiment scientifique, voilà, de vouloir assez cartésien. Et puis tout à coup, quand je me retrouve dans la musique, alors au niveau de l'énergie, etc., je suis complètement musicienne et complètement là-dedans. J'aime les grands textes, j'aime la poésie, etc. Mais la fabriquer moi-même, je me dis, est-ce que j'ai le label, quoi? Et elle me donnait ce label-là. Et j'ai mis du temps à me dire. Et là, ça y est, par contre, c'est officiel. Hein. Je suis auteur.
Et là, du coup,
je suis auteur, ça y est, c'est fini.
Cet album, il doit être hyper important.
Oui, on comprend que cet album,
Il n'y a pas de mots.
C'est je me refais confiance à nouveau, je me revalide, je me redonne le droit d'être l'artiste que je dois être, en fait. Et c'est-à-dire à l'écriture aussi.
2007, Amel Bent, donc l'album à 20 ans, 2009, 2011, 2014, 3 autres albums extraits.
Et qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, ce
Ma
poème,
ever.
Il donne adieu à ce que j'étais, pourquoi moi, je ne sais pas.
Donc 2009, 2011, 2014, téléportation, on appuie sur le bouton. Oh. 4 février 2016, cette fois. Nous sommes à la maternité. Le bébé qui pleure, c'est Sophia. Enfin, c'est pas vraiment elle. Hein. On n'était pas planqué quelque part pour l'enregistrer. Sophia, c'est votre petite fille. Vous devenez maman. Aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Vous dites qu'ils vous ont sauvé. Sauvé de quoi ?
En fait, ils m'ont donné ce dont j'ai manqué le plus. Hein. C'est-à-dire une famille composée.
Ouais.
Voilà. J'ai eu une famille décomposée, puis une famille recomposée. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. Et d'avoir mes enfants...
Un soutien, d'avoir quelque chose de...
Non, juste leur existence, en fait. Juste leur existence, elle a rempli un vide, elle a soigné quelque chose, je ne sais pas dire. Il y a eu un avant et un après pour moi.
Pas d'angoisse, pas de stress.
Avec
pas de...
eux, ouais. Jamais.
Même au moment où ils sont nés.
Jamais. Ma mère, elle m'a dit, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. On dirait que j'étais née pour être mère. Ça a été... Même mon mari, il a eu peur à la maternité, comment j'ai pris ma fille comme ça. Il m'a dit, attention et tout. J'ai dit, mais t'inquiète pas. En fait, c'était dans mes cellules. Je savais tout faire. J'ai rien. Le pédiatre, c'est lui qui me dit, quand est-ce que vous nous les amenez de temps en temps qu'on les voit ? Vraiment, c'est-à-dire que mes enfants, c'est une extension de moi, c'est mon rêve éveillé, je connais tout. Enfin, je sais pas,
vous vous en doutiez ça ou pas avant d'être maman ?
Non, je m'en
doutais pas. Ça s'est déclenché au moment de la naissance, quoi.
Ça s'est déclenché au test de grossesse.
Ah, au test de grossesse.
D'ailleurs, j'ai tout arrêté, j'étais en train de faire un album, j'ai dit à la maison de disques, j'arrête là, je chante plus. D'ailleurs, j'ai pas chanté pendant 3 ans. Le monde s'est arrêté de tourner, il y avait que ce bébé qui grandissait, qui était important pour moi. Et je savais à quel point ça allait tout bouleverser pour moi, vraiment.
Alors, il y a Amel Bent, la maman, et Amel Bent, l'artiste. Les deux réunis, ça donne ce titre.
Si vous n'étiez plus de ce monde, je n'en aurais plus rien à faire. Si je n'entendais plus vos rires, je n'aurais plus rien à perdre. Sans vous, mes anges, ce serait l'enfer sur terre. À quoi me servirait de vivre si je n'étais plus votre mère ?
C'est un des rares textes que j'ai écrit.
Vous avez parlé alors qu'on entend la voix.
J'ai fait exprès, j'ai pas envie d'entendre ma fille parler. Ouais.
Vous chantez avec les tripes d'une mère follement aimante. Est-ce qu'on peut dire qu'être mère, c'est aimer à en crever ? Est-ce que ça s'explique d'ailleurs ?
Oui, j'ai pas de mots parce qu'en fait, on essaye d'y mettre des mots. Mais je pense pas qu'il existe des mots qui soient...
Assez forts.
C'est pas forcément fort, mais qui soient fidèles à ce qu'on ressent, en fait. C'est trop bizarre. C'est à la fois cette folle responsabilité de se dire on a mis des êtres humains au monde, qu'à un moment donné, on va lâcher. Et en même temps, c'est incroyable de se dire on peut donner la vie. Enfin, je veux dire, ce que je dis, c'est tellement bateau, mais le vivre, c'est franchement, c'est une aventure, quoi. Et c'est une aventure en continu. Je veux dire, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. C'est tous les jours, à chaque heure, à chaque minute.
Il va peut-être y avoir quelques galères par moment, quand même.
Oui, mais franchement, il y en a déjà eu. En vérité, ouais. Un enfant, on est sans cesse entre... On a en admiration, et puis après, on est... J'en peux plus, je suis contente de le déposer à la crèche. Il faut que je prenne des vacances de lui ou d'elle, 2 minutes. Et puis après, c'est les mettre au lit, être pressé qu'ils s'endorment pour pouvoir faire autre chose. Une fois qu'ils dorment depuis 2 heures, c'est se dire il nous manque et d'avoir envie de les réveiller. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai ressenti vraiment que là, pour le coup, la cartésienne, elle disparaissait complètement. Et là, c'est l'animal, quoi. C'est animal.
C'est ce que j'allais dire quand vous en parlez. Ouais.
C'est quelque chose que j'arrive pas à verbaliser. C'est comme ça. C'est pas de l'amour. Je sais pas ce que c'est. L'amour,
ça nous dépasse.
Ouais, ça me dépasse. Et franchement, je comprends. Ma mère, elle me disait, tu sais, elle est d'une autre génération, mais elle me disait, faire des enfants, c'est aussi une manière d'accepter de plus de perdre ses parents, par exemple. Et moi, quand elle me disait ça, pour moi, c'était atroce qu'elle me disait. Je disais, ah ouais, parce que maintenant, tu m'as, donc tu arrives à dire qu'un jour, tu vas perdre ta mère. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, pour moi, l'amour ultime, c'était l'amour que je porte à ma mère. Il pouvait pas y avoir plus gros que cet amour. Et quand elle me disait ça, ça me rendait triste. Je voulais pas.
Et ensuite, vous avez compris.
Ah ben, quand mes enfants sont nés, en fait, j'ai compris ce que c'était la peur de avoir envie de mourir avant quelqu'un, en fait. Voilà. Ça, je savais pas ce que c'était. Voilà. Je veux pas partir avant mes enfants.
À vos filles.
Après mes enfants. Pardon,
après.
Excusez-moi.
Vous avez dit quoi ?
Avant.
Avant. Je ne veux pas mourir après mes enfants.
Voilà.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
En 2021, Amel Bent, on découvre l'album Vivante avec un duo avec Attic.
Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi.
Est-ce que vous avez déjà aimé passionnément ?
Ah oui.
Et quand on dit que la passion détruit, vous trouvez que c'est destructeur ?
Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut que ça se transforme, quoi. Par exemple, mon mari, ça a commencé très passionnel, et puis après ça s'est stabilisé en une forme d'amour, d'une amitié amoureuse ou d'un amour amical, je ne sais pas comment dire, mais il peut y avoir de temps en temps des reliquats de passion du début, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus apaisé, quoi. Et moi ça me plaît, moi je rêvais de la routine. Alors franchement, je sais que les gens ont horreur de la routine, moi je c'est tout ce que je souhaitais dans ma vie, c'était
parce
d'avoir...
Parce que c'est rassurant.
C'est pas ça, c'est que j'ai pas forcément été, on va dire, facilité dans ces parcours-là amoureux, etc. Et je pense que c'est aussi dû à mon parcours, voilà.
Et justement...
J'avais besoin de certitude, en fait. Rien d'autre, juste la certitude que demain, ça va être comme hier, et c'est super, quoi.
Vous attendiez l'amour ?
Depuis toujours. Quand on a manqué d'un père, en général, ça... Ça laisse des séquelles pour une fille, en tout cas,
ça
je
peut
pense.
Faire l'inverse.
Moi, j'ai été à la recherche désespérée d'une figure masculine et vraiment que pour l'amour, parce que les femmes, moi, de ma famille et qui m'ont élevée, elles sont fortes, elles sont incroyables, elles sont puissantes et elles m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour être une femme forte et avancer dans la vie. La seule chose qui me manquait. C'était l'amour d'un homme, un homme qui me dit je t'aime pour de vrai et qui me dit t'es belle pour de vrai. Ce que je vois par exemple de mon mari avec mes filles, avec ses filles, moi j'ai pas connu ça. La première fois qu'il a dit qu'est-ce qu'elle est belle ma fille, oh, je t'aime ma fille, je me suis mise à pleurer, il m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis que je connais pas, je sais pas ce que c'est nouveau pour moi en fait de voir un papa dire ça à sa fille. Et c'est ouf que ce soit ma fille et que ce soit toi. Mmh. Je suis trop heureuse, en fait, de pouvoir le vivre. Alors, c'est pas moi la petite fille, c'est pas mon père, mais je le vis par procuration et ça me soigne, c'est merveilleux. Et je me dis, mes filles, elles auront peut-être pas le même vide et elles chercheront peut-être pas comme ça, de manière pas forcément bonne pour elles, l'amour d'un homme. Moi, je me dis, mes filles, elles vont. Le premier mec qui va venir, qui va dire, je t'aime, t'es trop belle, elle va dire, ouais, je sais. Mon père, il me le dit depuis que je suis née, en fait. C'est chose que ouais. Moi, j'ai pas pu dire.
Amel Bent, on appuie sur le bouton téléportation. On est en février 2025, on allume l'autoradio, on entend ça. Ce titre, c'est triste. C'est la dualité entre la tristesse et l'espoir. Est-ce qu'il y aurait pour vous des chagrins insurmontables dans la vie ?
Je pense que... En même temps, j'ai des exemples qui me disent que non. Mais est-ce que le chagrin, il se surmonte vraiment ? Je crois que les gens apprennent à vivre avec. On cohabite. Moi, je pense que les vrais gros chagrins de la vie, les gens vivent avec. Mais je ne sais pas si on peut se...
Si on peut les surmonter.
Ouais, je ne sais pas si on peut... Je parle des chagrins... Voilà, moi j'ai une tante, j'ai perdu un cousin, par exemple, tout au début, juste avant que je fasse La Nouvelle Star. Moi, l'image de mon oncle et de ma tante enterrer leur fille, je me suis dit, ils ne vont jamais s'en remettre. Ce n'est pas naturel.
Ça peut être ça, le chagrin
normal. Et pour moi, ça, c'est le chagrin insurmontable. Et pourtant, ma tante, c'est une force de la nature. Elle a deux autres enfants, elle est mamie aujourd'hui plusieurs fois. Elle danse, elle chante, elle rit. Mais je vois dans le fond de ses yeux que voilà, c'est une femme qui a perdu un fils, quoi. Il y a quelque chose qui a changé en elle, donc je ne pense pas que ce soit réellement surmontable. Mmh. Aujourd'hui, elle vit avec ce chagrin.
Amel Bent, on termine notre voyage avec un artiste qui a profondément compté dans votre vie.
Mourir et aimer.
Charles Aznavour nous a quittés en 2018. Vous l'avez vu 3 jours avant, sans imaginer une seule seconde qu'il allait mourir. Vous lui avez fait écouter ce titre.
Où résonnait sa voix ? Je ne comprenais pas tout, mais entre chien et loup, il me berçait tout bas. Ses notes comme des lumières éclairaient mon hiver, me donnaient du courage pour chanter comme lui, rêver de Paris.
Vous terminez cette chanson en lui disant « Charles, merci ». Aujourd'hui, je suis certaine que vous aussi, vous avez beaucoup compté dans la vie de certaines personnes. Si vous pouviez glisser à l'oreille quelques mots à celles et ceux qui vous écoutent les jours où ça va mal, où c'est difficile pour eux, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Waouh.
C'est plus facile de le dire en chanson.
Bah, je crois que c'est pour ça que je chante. Hein.
Ouais, bah ouais.
Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai la foi. Donc il y a une phrase que ma grand-mère me disait et qui est intimement liée à la foi. C'est qu'elle disait, Dieu ne nous impose jamais des épreuves qu'on ne puisse pas surmonter. Et ça, j'y crois. J'y ai toujours cru. C'est un mantra qui est important pour moi. Donc quand il arrive une épreuve, quelque chose de difficile, un passage difficile, je garde la foi. Et je me dis que de toute façon, par nature, je vais surmonter. Parce qu'il n'y a rien que je ne puisse pas surmonter comme épreuve. Donc c'est la foi, mais après la foi, ça peut être la foi aussi en soi, la foi en l'humanité, la foi en la famille, en l'amitié, en l'amour, au lendemain. En tout cas, il ne faut jamais cesser de croire.
Merci Amel Bent. Merci beaucoup. En parlant d'elle, elle parle aussi de nous. Triste et décharge mentale, ce sont les deux singles qui annoncent l'arrivée de son nouvel album. Il y a la tournée en 2026, vous pouvez déjà réserver. Paris à l'Accor Arena le 29 avril. Dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a forcément une date du côté de chez vous. Cette émission et celle avec tous nos autres invités, c'est en podcast. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous, salut.